Ce soir, je voudrais vous inviter à ouvrir vos Bibles dans la première aux Thessaloniciens, chapitre 5. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, mais je vous le dis, c'est surtout 1 Corinthiens 14 qui nous retiendra. Mais je ne pouvais pas lire ce soir entièrement 1 Corinthiens 14, alors je prends ce passage qui résume un peu, en grande partie, ce que Paul écrit ailleurs. 1 Thessaloniciens 5, 17 à 22. Priez sans cesse et rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon et abstenez-vous de toute espèce de mal. Alors ce soir, je vais donc encore parler, peut-être certains diront une nouvelle fois, des dons spirituels. Nous en parlons régulièrement. Nous en parlons non pas parce que nous sommes une église de Pentecôte, mais parce que nous croyons dans l'importance de la manifestation des dons spirituels dans l'église, de la vie prophétique dans l'église. Les dons spirituels sont une source d'encouragement, de consolation, d'édification. Les dons spirituels sont aussi des moyens puissants de guérison, de délivrance et de communication de la foi de Dieu. Et dans cet enseignement, ce soir, je veux mettre l'accent sur la nécessité de développer une vie de l'esprit abondante et édifiante, qui soit aussi équilibrée, sécurisante et préservée. Préservée dans le sens où certains abus, désordres, déséquilibres développe des sentiments de méfiance pouvant conduire à un mépris, à un rejet des prophéties et donc à leur étouffement. C'est ce que nous venons de lire ici. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties. Et si ces choses sont écrites là, c'est parce que certainement il y a eu des excès, parce que la vie de l'esprit ne s'est pas manifestée dans l'Église comme elle aurait dû l'être, et donc certains blessés se sont un peu fermés à toute cette dimension qu'on va appeler charismatique, prophétique dans la vie chrétienne. Mais nous devons, et c'est le point premier, affirmer que nous avons besoin pour notre marche avec Christ de la vie prophétique et des dons spirituels. Ils font partie des bénédictions que le Seigneur réserve à son Église et qu'il veut encore donner à son Église aujourd'hui. Et la manifestation des dons spirituels, leur exercice doit donc être encouragé et facilité. Leur manifestation doit être aussi, je ne dis pas encadrée, mais accompagnée. Accompagnée. Et elle doit suivre pour cela des principes protecteurs, mais aussi libératoires, dont le respect garantit un bon fonctionnement des dons spirituels et la bénédiction de tous. Alors je voudrais commencer par un constat et parler à nous-mêmes directement, à l'Église. Nous prêchons régulièrement sur le thème des dons spirituels, sur la vie de l'Esprit, et nous vous avons encouragé depuis pas mal de temps à avancer avec foi dans ce domaine prophétique. Et c'est avec joie que nous constatons les grands progrès réalisés par plusieurs. La vie de l'esprit et la vie prophétique ne sont pas des énigmes ou les grandes absentes de la vie de notre Église. Et cela s'en ressent de plus en plus, notamment dans les nuits de prière. Et la dernière nuit de prière, n'est-ce pas, Didier, il y a vraiment une qualité, présence du Saint-Esprit, de manifestation des dons spirituels, à la fois d'une manière orale, mais aussi dans la guérison. Et donc, ce sont des très beaux points. Et même dans nos cultes, en tout cas au niveau de l'adoration collective, on sent un développement de la vie de l'esprit, des temps d'adoration, de louange. Chaque culte est différent les uns des autres, mais nous voyons un intérêt, nous voyons le désir d'aller plus loin dans une adoration libre, spontanée et conduite par le Saint-Esprit. Il y a donc une véritable soif de la vie prophétique au milieu de nous. Ceci dit, sous un autre angle, nous restons encore insatisfaits, voire parfois soucieux. Alors, insatisfaits de ce que si les dons sont reçus et manifestés au niveau de personnes individuellement qui reçoivent des paroles précises du Seigneur, des visions, des paroles de connaissance, de sagesse, et vous nous en faites part, et on échange dessus. Si au niveau, il se manifeste aussi au niveau de groupe, alors par exemple dans les retraites spirituelles, ça a été le cas notamment des retraites spirituelles, des groupes de prière. L'année dernière, je crois au mois de juin, il y a eu des moments bénis, hein, vous m'avez raconté. L'année dernière aussi, lors du camp Jap, il y a eu des moments très forts dans la vie de l'esprit. C'est aussi vrai dans le cas des rencontres informelles, on va dire en dehors du programme de l'Église. Eh bien, malgré tout, leur manifestation au sein de l'Église reste encore insuffisante. Je dis que par rapport à ce que beaucoup reçoivent, la manifestation des dons, notamment dans le cadre des cultes, reste insuffisante. Et c'est là que nous exprimons une insatisfaction, non par rapport à un désintérêt, un mépris ou une ignorance concernant les dons, mais par rapport à une réalité existante, je ne dis même pas un potentiel, parce qu'il y a plus qu'un potentiel, il y a une réalité existante qui ne s'exprime pas comme elle pourrait l'être dans nos cultes, parce qu'elle est encore trop retenue. Alors nous sommes souvent interrogés sur cette insuffisance de la manifestation des dons spirituels dans nos cultes, surtout comparé à tout ce qui est vécu à côté. On s'est interrogé, est-ce un manque d'enseignement ou d'encouragement de notre part? J'espère que non, enfin nous l'espérons, mais si nous devons encourager plus ou enseigner davantage, nous le ferons. C'est vrai qu'on se questionne souvent sur cette dimension spirituelle propre à Paris. On sent que ce n'est pas facile d'exercer les dons spirituels à Paris, dans ce quartier de Bastille particulièrement. Autant, je peux vous raconter mon propre témoignage. En son temps, Benjamin m'avait dit la même chose, mes collègues disent la même chose, on en parlait encore il n'y a pas longtemps. Lorsque je suis arrivé de la région de Montpellier, on est dans une église 110-120 à Lunel, et il y avait vraiment une vie de l'esprit. Quand je suis arrivé ici, pendant 4 mois, pas une seule prophétie. J'avais rien. C'était la première fois que ça m'arrivait en près de 7-8 ans de ministère. Mais qu'est-ce qui se passe? Et vraiment, il a fallu que je prenne du temps dans la prière, dans le jeûne, pour arriver à finalement à percer. Et de me rendre compte que ce n'était pas quelque chose d'acquis, mais qu'il faut constamment revenir dessus, et alors que quand on va en déplacement, bon, cette fraîcheur, cette liberté, cette spontanéité revient assez facilement, et donc ça c'est un enjeu qui est là. Alors c'est vrai qu'on s'interroge aussi sur la durée des cultes. Nos cultes aujourd'hui sont courts, intenses, et c'est vrai que ce n'est pas toujours, je l'ai écrit comme ça, ce n'est pas toujours facile de se poser spirituellement pour se porter à l'écoute. Et on voit bien que dans le cadre notamment des nuits de prière, les dons se manifestent, donc ils sont là. Mais j'observe que c'était déjà le cas quand les cultes étaient plus longs. Donc ça n'a pas changé beaucoup, il ne faut pas dire que c'est parce que les cultes sont plus courts, parce que quand avant ils faisaient 1h45, 2h, il y avait déjà le même souci. Néanmoins, je l'ai mentionné, nous notons un progrès sensible, notamment ces dernières semaines, de la qualité des temps d'adoration. Et j'ai pu à plusieurs reprises dans différents cultes, comme ceux qui ont pu assister à ces cultes, vous savez que j'ai souvent dit, allez, on va prendre un temps supplémentaire, hein, un temps vraiment où on adore Dieu, on cherche Dieu, quelques minutes de plus, et on a vraiment vu dans ces moments-là, hein, laisser l'Esprit de Dieu, on sort un peu de ce qui paraît être un programme tout fait, tout établi, on laisse l'Esprit, et là, on a vu de bons moments se passer, donc c'est vraiment très, très encourageant, et il faut continuer ainsi et progresser. Nous disons aussi peut-être qu'il y a encore quelques sentiments de crainte, certains exprimant une crainte, une retenue dans le cadre du culte. Alors voilà pour l'insatisfaction, mais rien de grave. Hein. C'est simplement par rapport à ce qui peut être fait, je crois qu'on peut aller beaucoup plus loin. C'est surtout par rapport à ça. Alors maintenant, j'ai mentionné aussi peut-être l'expression d'une certaine inquiétude ou d'un souci lié à une certaine activité charismatique, prophétique que je vais qualifier de non accompagnée. Notamment dans le cadre d'entretiens en privé ou de réunions informelles en dehors des activités de l'Église. Pourquoi inquiet, pourquoi soucieux? Parce qu'à notre sens, que ce soit dans le cadre d'entretiens privés ou de réunions informelles, il y a toujours un risque, je vais vous les montrer, de dérive par rapport aux principes bibliques, assurant d'un bon fonctionnement des dons spirituels et de la vie prophétique. Alors on va étudier maintenant avec la Bible dans 1 Corinthiens 14 ce que sont, non pas les principes d'encadrement, mais les principes d'accompagnement de la vie de l'esprit, de la vie prophétique, afin qu'ensemble nous puissions, on va dire, gommer toute inquiétude que j'exprimais, en préservant et en développant une vie prophétique abondante, édifiante, équilibrée et sécurisante. Alors regardez 1 Corinthiens 14. D'abord quelques points. Verset 12. Il écrit que ce soit, si vous cherchez les dons spirituels, hein, donc que ce soit pour l'édification de l'Église, que vous cherchiez à en posséder abondamment. Je pars de ce verset. Premièrement, je note ceci. Il existe un lieu favorable à la manifestation des dons spirituels. Ce lieu, c'est l'Église et l'Assemblée. Pourquoi on doit chercher des dons spirituels pour l'édification de l'Église. Ça, c'est le but, l'édification de l'Église. L'Église. J'y reviens tout à l'heure. Regardez, je crois, c'est au verset 26. Lorsque vous vous assemblez, et là, il est parlé encore de l'assemblée, le chapitre 1 Corinthiens 14, sur les dons spirituels, parle de l'exercice des dons dans l'Église. Ils sont donnés dans l'Église, à l'Église, pour être manifestés avant tout dans l'Église. Et ça, il nous faut nous en rappeler, notamment par rapport à la prophétie. Le but, je disais, les dons spirituels servent à l'édification. Et à ce titre, ils doivent être recherchés abondamment. Alors, à quoi servent les dons spirituels? Les dons, pour moi, un don spirituel ne doit provoquer ni trouble, ni perturbation, il ne doit pas heurter. Il ne doit pas juger, il ne doit pas condamner. Mais Paul le dit, les prophéties sont données pour encourager et consoler. C'est vrai que le mot qui est derrière exhorter, encourager, peut parfois dire reprendre. Mais toujours dans l'amour, 1 Corinthiens 13, et jamais dans un esprit de condamnation. Édifier, consoler, encourager. Voilà à quoi servent les dons spirituels. Ensuite, l'apôtre Paul, j'ai noté, va établir au moins 5 principes qui doivent être respectés dans le cadre de l'exercice des dons spirituels afin de garantir leur bon fonctionnement. Tout d'abord, on ne va pas lire tout le passage, mais du verset 6 à 19, Paul va insister sur un principe de compréhension. Ça ne sert à rien des dons spirituels si les gens ne les comprennent pas. Mais c'est pour ça qu'il dit que pour parler en langue, vous pouvez parler en langue chez vous, mais il vaut mieux parler dans votre langue maternelle à l'Église pour que les autres édifient. Et si quelqu'un parle en langue, il faut qu'il soit interprété. D'accord? Parce qu'il faut qu'on soit compréhensible. Autre principe, qui est très important, j'y reviens ensuite, c'est le principe d'examen. Verset 20. Pour le mal, soyez des bébés, des enfants, des petits-enfants. Mais par rapport au raisonnement, au jugement, à l'analyse, soyez des adultes. Nous l'avons lu dans le Thessaloniciens, examinez, un principe d'examen. Un principe de prévenance, verset 23. Si donc, alors que l'Église entière, vous avez vu, c'est encore l'Église entière et rassemblée. Pour Paul, vraiment, les dons spirituels s'inscrivent dans la vie de l'Église. Et je pense qu'on ne le souligne pas suffisamment. Si donc, alors que l'Église entière est rassemblée, tous parlent en langue, et qu'il entre de simples auditeurs ou des non-croyants, ne diront-ils pas que vous êtes fous ? C'est un principe de prévenance. D'accord ? On doit faire attention. Il y a des gens qui ne comprennent pas forcément ce que sont les dons spirituels et parler en langue, et donc il ne s'agit pas de faire tout et n'importe quoi. Versets 32 à 33, il renforce cette idée en donnant même un principe d'ordre, verset 33, et de bienséance, verset 40, vous avez, mais que tout se fasse avec bienséance, avec ordre. Et je note aussi au verset 26 et verset 39, verset 26, que faire donc, hein, lorsque vous vous assemblez, si quelqu'un, eh bien qu'il se lève, qu'il exprime ce qu'il a. Et puis verset 39, n'empêchez pas de parler en langue, ici donc un principe de liberté. Cinq principes, un principe de compréhension, un d'examen, un de prévenance, un d'ordre et de bienséance et un de liberté. Et voilà les principes, avec ces cinq principes-là, on peut arriver à garantir une vie de l'esprit encourageante, édifiante et sécurisante. Alors, on va maintenant passer à l'application de ces principes d'accompagnement de la vie de l'esprit. Regardez au verset 26. Il pose cette question, que faire donc ? Et là, il va donner une application directe au principe qu'il établit. Alors, il donne une application au principe de compréhension. Par exemple, au verset 27, il dit, en est-il qui parle en langue que deux ou trois ou plus parlent à chacun à son tour et que quelqu'un interprète ? Donc, il doit y avoir une interprétation des parler en langue. Application aussi du principe d'examen. Pour ce qui est des prophètes, que deux ou trois parle et que les autres jugent. Un verset très important. Premièrement, Paul ne dit pas un prophète, mais deux ou trois. Bien sûr, c'est pour limiter, mais c'est surtout pour dire qu'il n'écrit pas quand le prophète parle. Mais il écrit qu'en deux ou trois. Autrement dit, ne laissons jamais le monopole de la prophétie à une personne. D'accord ? Ne laissons jamais le monopole de la prophétie à une personne. Deuxième chose, les autres, le reste de l'assemblée entière, que fait-elle ? Elle juge. Et alors là, je sais, certains tremblent. Comment ça ? Juger la prophétie ? Parce que certains utilisent leur soi-disant ministère de prophète pour imposer. Dieu m'a dit. Alors je l'ai souvent dit. Moi, quand quelqu'un me dit Dieu m'a dit, j'écoute plus. Ah, je peux vous garantir, j'écoute plus. Ne me parlez pas comme ça, c'est fermé. Parce que de quel droit, si tu viens me dire Dieu m'a dit dans une prophétie, moi je peux rien dire. Comment je peux juger quelqu'un qui dit Dieu m'a dit ? Je l'ai dit pareillement aussi. Je laisse faire, mais je ne suis pas favorable à la prophétie à la première personne du singulier. Je vous l'ai dit, je n'aime pas quand quelqu'un se met à la place de Dieu. Parce que je, Yahvé, ne se trompe jamais. Moi, je ne peux pas dire je à la place de Dieu parce que moi, je prophétise en partie. Donc sachez aussi que quand quelqu'un commence à prophétiser à la première personne, ça m'irrite un peu les oreilles. Mais bon, j'insiste pas trop sur ça. En tout cas, il y a un devoir d'examen, un double devoir d'examen. 1 Jean 4:1, éprouvez les esprits pour voir s'ils sont de Dieu. Alors là, c'est l'origine. De quelle origine est la manifestation spirituelle ? Il y a trois origines. Il y a l'origine divine, il y a l'origine humaine et il y a l'origine démoniaque. Bon, quand c'est démoniaque, généralement, ça se reconnaît. Hein. Bon. Mais des fois, c'est subtil. L'esprit de religiosité est très subtil. L'esprit des faux prophètes est très subtil. Et c'est pour ça qu'il est nécessaire des fois que Dieu manifeste un don de discernement des esprits, distribue un don de discernement des esprits, parce que sinon il n'est pas facile de remonter à la source. Mais là, il faut prendre du recul et savoir aussi considérer les choses au-delà de ce qu'on entend, de ce qui peut être visible. Et puis ensuite, deuxième examen, on l'a lu dans 1 Thessaloniciens 5:21, examiner, analyser, juger les prophéties. Pour moi, une prophétie n'est pas une parole infaillible. Vous me montrez-moi un jour dans le Nouveau Testament un endroit où il est dit que qu'une prophétie est une parole infaillible comme celle qu'on pouvait trouver dans l'Ancien Testament. Même quand l'apôtre Paul prêche, les Juifs de Bérée vérifient ce qu'il dit et le Seigneur met en avant leur comportement. Les prophéties doivent être jugées. Et Paul le dit. Pourquoi ? Parce que nous prophétisons en partie. Et il faut l'accepter. Pourquoi nous prophétisons en partie ? Parce que la seule parole qui soit vraiment parole de Dieu à 100% infailliblement et inspirée, c'est la Bible. C'est la Bible. Moi, quand je prêche, je n'estime pas que je prêche 100% la parole de Dieu. Il y a toujours une part de moi. On essaye de chercher. Mais vous avez ce droit et ce devoir même de juger aussi ce que je dis. Et nous devons être, et Paul dit, ne soyez pas des petits-enfants, soyez des gens adultes. Si nous devons retenir quelque chose de la réforme, c'est de dire sola scriptura, hein, et d'en revenir aux Écritures, et de tout juger d'après les Écritures. Même ça va plus loin, dans 2 Thessaloniciens 2:2, c'est juste après ce texte qu'on veut lire, Paul fait même appel à notre bon sens, parce que dans cette église de Thessalonique, certains étaient passés, il dit, ne vous laissez pas troubler par quelque inspiration. En fait, le mot, c'est don spirituel. Ne vous laissez pas troubler dans votre bon sens. Notre bon sens, c'est quoi ? Il y a des choses qui nous ont été enseignées, d'après la parole de Dieu, la doctrine, qui sont venues, on les connaît, on les sait, et on ne va pas tout laisser être renversé par une parole qui nous dit l'opposé de ce qui est écrit. Alors soyez ferme dans votre bon sens, soyez ferme dans votre foi, nous dit l'apôtre Paul, et examinez toutes choses. C'est un droit, c'est un devoir. Je voudrais parler maintenant d'application du principe d'ordre, de responsabilité, de paix. Ordre et paix, c'est la même chose, hein. C'est la même idée. Je note que Paul écrit ici... pour prophétiser, nous devons prophétiser chacun à notre tour. On n'est pas là pour se parler les uns sur les autres. Et dans un nombre limité, que 2 ou 3 prophétisent. Alors dans des temps particuliers, des nuits de prière, parce que ça dure très longtemps, évidemment, on va laisser se manifester davantage. Mais dans le cadre d'un culte, on essaie de maintenir 2 ou 3 prophéties, parce que ce n'est pas une surenchère, ce n'est pas une compétition. Et donc, je crois qu'il faut savoir aussi rester dans le cadre de ce que nous dit la parole. C'est un apôtre qui a écrit, inspiré par le Saint-Esprit. Je veux dire aussi que nul prophétisant ne peut dire « je ne suis pas responsable ». Nul ne peut dire « moi, je suis que... voilà, Dieu parle à travers moi ». Non, l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Autrement dit, ce qu'on dit, on est responsable de ce qu'on dit. D'accord ? Et on est responsable de la manière dont on dit. Verset 40, je note qu'il y a un devoir de bienséance, que tout se fasse avec bienséance et avec ordre. Autrement dit, prophétiser, excusez-moi, mais ce n'est pas troubler, perturber l'Église. C'est respecter le corps de Christ. C'est respecter la paix, l'harmonie, la présence du Saint-Esprit. Ce n'est pas commencer à faire toutes sortes de gesticulations, de dramatisations. Souvent, le moins on en met, et le plus on laisse la parole, et c'est le mieux. Ce respect de l'ordre de Dieu dans l'Église passe aussi par l'obéissance et la soumission aux anciens et aux pasteurs qui dirigent l'Église. À aucun moment, nul prophétisant ne peut s'affranchir du respect de l'autorité établie par le Seigneur pour veiller sur son Église. Vous savez bien que Paul... partout où il passait, il voulait que des anciens soient établi. Qu'est-ce qu'un ancien? C'est celui qui surveille. Oh, ce n'est pas un mot qu'on aime entendre aujourd'hui. Mais c'est pourtant ça. Surveiller. Ça ne veut pas... C'est surveiller pour la protection de tous, pour le bien de tous. Je voudrais revenir maintenant à, dans notre contexte, un peu plus proche à, au principe d'examen. Soyons vraiment pratiques ce soir. Dans le Nouveau Testament, les dons spirituels ne sont pas donnés de façon privée. Je ne dis pas qu'ils ne peuvent pas être donnés pour une personne en particulière. Mais je ne vois pas d'exemple dans le Nouveau Testament où ils sont donnés en tête à tête, même quand il s'agit d'une personne en particulier, pour qui la parole est sortie. Par exemple, quand le Seigneur met à part Barnabas et Saul pour l'apostolat, il le fait dans un temps de jeûne et prière des anciens, donc au milieu de l'Église. Quand Agabus vient parler à Paul, lui disant « Attention, voilà ce qui va t'arriver à Jérusalem, tu seras fait prisonnier », il ne le prend pas en tête à tête, il le prend au sein de l'Église. Alors, quand je parle de... Pour moi, si vous voulez, mon problème vis-à-vis de cette façon de pratiquer, de un à un, en tête à tête, j'ai une parole de Dieu pour toi. Je ne suis pas satisfait avec ça parce que, à mon sens, cela enfreint les principes de bon fonctionnement des dons spirituels établis par le Seigneur. Pourquoi ? Parce que tout don spirituel doit pouvoir être examiné. Qu'une personne vienne nous voir, ça nous arrive souvent, n'est-ce pas Didier, tu me disais, à toi, à moi, bon, il vient nous dire, voilà ce que j'ai reçu du Seigneur. Ça va, je veux dire, par la grâce de Dieu, on a cette maturité, cette connaissance pour examiner les choses. Ce qui me gêne, c'est quand quelqu'un va prendre, peut-être quelqu'un qui est jeune dans la foi, et va dire, bien, j'ai quelque chose à dire de la part du Seigneur. L'autre, il lui demande s'il va se demander ce qui lui arrive. Comment ce jeune chrétien, d'abord il va être impressionné, j'ai une parole de Dieu, Dieu m'a dit. Et il n'a pas le recul, il n'a pas la connaissance de la parole de Dieu. Et donc il ne peut pas examiner. C'est un enfant, il ne peut pas examiner. Et nul au milieu de nous ne devrait communiquer une parole dite inspirée à un autre, que ce soit une vision, une parole de connaissance, de sagesse, sans qu'il y ait possibilité d'examen. On devrait avoir cette sagesse. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait des témoins. Dans le cadre des cultes, c'est l'assemblée tout entière qui est concernée. Nous sommes témoins, et tout entière, l'assemblée juge, elle examine. Mais dans un cadre réduit ou privé, il doit aussi y avoir présence ou possibilité de recourir à des personnes qui vont assurer une couverture spirituelle, des référents. On puisse aller trouver un frère, une sœur qu'on connaît, qui est assis dans la foi, un ancien, un diacre, un pasteur. Ça doit être normal. Et si la personne qui a une parole à apporter de la part de Dieu se refuse, alors il y a un problème. Nous voulons travailler avec les pasteurs à mettre en place des personnes référentes dans le domaine spirituel, dans le domaine prophétique. Alors, vous pouvez compter sur nous, mais nous ne sommes pas toujours forcément disponibles. Nous allons travailler à mettre en place des personnes référentes dans le domaine prophétique, pour que lorsque vous avez des questions, ou quelqu'un veut partager une parole, vous puissiez voir avec cette personne et que cette personne puisse aussi être avec vous pour examiner ce qui est dit. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce qu'après, dans le cas du ministère de berger, de pasteur, je ne vous explique pas ce que parfois on est obligé de faire. On récupère des gens. Ils ont reçu un don spirituel, loin de les avoir consolés, encouragés, ça les a laminés. Mis à terre, une parole qui et on est là, et après, il faut essayer de reprendre les choses. Et il y a une blessure qui a été faite. Ainsi, avant que toute parole inspirée soit donnée, vous devriez vous assurer d'avoir un ou deux témoins qui assurent la couverture spirituelle pour avoir du recul et pour pouvoir examiner. Maintenant, je crois encore une fois que le lieu favorable pour la manifestation des dons spirituels, c'est l'assemblée. On a vu l'église entière. Il est écrit « lorsque vous vous assemblez ». Parce que dans l'église, eh bien, on est sûr qu'il y a cette couverture. Les pasteurs, les anciens sont là. C'est notre ministère. Nous sommes appelés à surveiller, à diriger. Et ne croyez pas que ce soit des mots que j'invente. Surveiller, acte 20, 28. Diriger 1 Thessaloniciens 5, 12. Le Seigneur nous place non pas dans une position de supériorité, mais de responsabilité. C'est notre mission, avec en particulier la responsabilité de protéger les plus jeunes dans la foi. Application du principe d'ordre. Je ne veux viser personne en particulier, je sais, mais maintenant, je sais que ça se passe, et parfois vous m'en parlez, pas suffisamment, je pense, mais je ne veux viser personne. Alors, nous n'avons jamais cherché à interdire les réunions informelles, les entretiens privés, mais malgré tout, il nous appartient en tant qu'anciens de mettre en garde quand des comportements ne nous paraissent pas entièrement en accord avec les principes de la parole. Or, clairement, il existe un principe d'ordre et de bienséance qui passe par une exigence de transparence et d'obéissance. Certains me disent, mais les églises du temps des apôtres, c'est des églises où il y avait la liberté. Relisez vos épîtres et surtout replacez-les dans un contexte historique. Je peux vous dire que du temps des apôtres, les églises, ça marchait droit. Il y avait des anciens, il y avait des apôtres et les anciens, ils étaient missionnés. Hein. Ils devaient veiller à la doctrine, ils devaient veiller aux loups qui pouvaient s'introduire, ils devaient veiller aux mercenaires, et ils devaient vraiment garder le troupeau. C'était une nécessité, surtout, et ça se comprend en plus dans la culture de l'époque. Alors, pour ceux qui en doutent, apparemment déjà certains ont douté de ces exigences, Paul écrit, ou même le contestait, Paul écrivait déjà, verset 37 d'un Corinthiens 14, « Si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse que ce que je vous écris est un commandement du Seigneur. » Il parle de l'ordre, de la bienséance, etc. Alors pourquoi est-ce que je parle de mise en garde? Encore une fois, parce qu'il nous arrive trop souvent de devoir gérer les blessures. Et je vais vous dire, ça ne m'amuse pas non plus, ça ne nous amuse pas. Quand on voit plusieurs jeunes, très jeunes dans la foi, être embarqués par des prophètes de passage, ça ne nous amuse pas du tout. D'autant plus que si on avait été mis au courant de la situation un peu plus tôt, on aurait pu essayer de veiller à ça. Mais on a l'impression qu'il ne faut surtout pas en parler aux pasteurs, parce que s'ils sont au courant, ceci, cela. Mais écoutez, si quelque part on refuse d'en parler aux pasteurs qui sont là établis dans l'Église, c'est que quelque part on est... Il y a quelque chose qui cloche, quoi. Il y a quelque chose qui cloche. En plus, je pense que dans notre façon de gérer l'Église, nous n'avons jamais mis des cadenas, des verrous de partout. On a laissé... Maintenant, j'apprécie. Je pense qu'il y a certainement des réunions qui sont très intéressantes. Et d'ailleurs, après, il n'y a pas encore, un jeune frère a pu en parler avec moi, de la parole qu'il avait reçue dans le cadre de réunion. Comme c'était une parole importante, il a voulu en référer à son pasteur. Et je dis, bon, bah, écoute, très bien, tu as reçu cette parole, c'est encourageant, on avance au fur et à mesure. Mais il ressentait le besoin d'équilibrer ça par le pastorat et par la Bible. Et je pense que ça, c'est une manière sage. Mais j'en reviens par exemple à mon Agabus. Agabus, il ne faisait pas des réunions particulières. Quand Agabus avait quelque chose à dire, il venait au sein de l'Église. Et il pouvait s'exprimer. Il partageait avec son ministère, était apprécié et reconnu. Je pense que le lieu favorable, c'est encore l'Église. D'autant plus, croyez-moi, un prophète n'est pas appelé à conduire un troupeau. Généralement, un prophète qui conduit un troupeau, c'est une catastrophe. C'est pas son ministère. Qui conduit le troupeau ? Ceux qui ont le ministère pastoral ou éventuellement d'enseignement. Le plus ancien livre chrétien en dehors de la Bible s'appelle la Didaché, l'enseignement. On l'appelait aussi l'enseignement des apôtres. Ça date des successeurs de l'apôtre Paul. On pense peut-être Clément, qui était un des premiers évêques de l'église de Rome, juste après Paul. Et dans ce livre, il est écrit, un prophète, c'était donc la norme au premier siècle, hein. Vous me parlez de l'église primitive, le premier siècle. Un prophète, s'il est véritablement un prophète, passera 2-3 jours dans une église, s'il reste plus longtemps, c'est un faux prophète. C'est écrit dans la Didaché. Pourquoi ? Parce qu'au bout de 2-3 jours, c'est plus un prophète, il commence à savoir les choses. Donc, voilà, je crois que les prophètes ont leur rôle, mais ils n'ont pas le ministère. Un vrai prophète n'a pas le conducteur. Je ne connais pas véritablement de prophète qui dirige une église. Ils sont des ministères itinérants qui font du bien, mais on ne suit pas un prophète. On ne suit pas un prophète. Pour finir, alors en disant ceci, nous ne cherchons pas à étouffer la vie de l'esprit ou à la contrôler. Nous sommes toujours en train d'encourager la vie de l'esprit. Notre désir, c'est qu'elle soit édifiante. Et ça, c'est ce qui revient dans Corinthiens 14. Édifiante. Et qu'elle respecte donc le bien commun et individuel. Pour le bien commun individuel, les principes de bon fonctionnement que nous avons vus, la prévenance, l'examen, l'ordre, etc. Pour que on fasse ça sans peur, sans crainte, mais dans une véritable liberté et transparence du Saint-Esprit. Et je suis convaincu que le respect de ces principes n'est pas une contrainte, mais constitue un espace de liberté, de considération fraternelle et de bénédiction. Alors je finis en disant, il est ici à question avant tout d'équilibre. La vie de l'Esprit est extraordinaire, mais c'est un domaine très sensible. Et il a plu au Seigneur que la vie de l'esprit soit équilibrée. Équilibrée premièrement entre liberté et ordre. 39, n'empêchez pas, liberté, verset 40, que tout se fasse selon la bienséance et l'ordre. Revendiquer la liberté sans l'ordre conduit à des dérapages et à l'insécurité. Mais l'inverse, ce n'est pas mieux. Imposer l'ordre au détriment de la liberté n'est pas dans la volonté de Dieu. Et aujourd'hui, beaucoup de leaders d'église résolvent le problème en imposant un contrôle a priori des dons. Alors, je vais vous le dire tel quel, c'est peut-être juste mon interprétation, je le reconnais, peut-être qu'il pourra y avoir d'autres sensibilités, elles peuvent s'exprimer, je les accepte. Mais je pense que dans l'idée de Paul dans 1 Corinthiens 14, il n'y a pas un filtrage a priori des dons spirituels. Parce que ce n'est pas, mais ils sont faits a posteriori. Parce que c'est l'Église qui examine les dons spirituels. Donc ce n'est pas le pasteur qui examine les dons spirituels, mais c'est l'Église qui examine les dons spirituels. Vous comprenez ? C'est pour ça qu'on n'a jamais voulu aller dans le sens d'un filtrage a priori, mais toujours a posteriori. C'est risqué, hein ? C'est plus facile de faire un examen a priori plutôt qu'a posteriori. On prend des risques. On en prend tout le temps. Mais je crois que c'est là aussi qu'on démontre, comme ça qu'on va démontrer qu'on est des églises avec des gens, des chrétiens matures qui connaissent la parole. Et on est capable d'examiner. Et on est capable de retenir ce qui est bon. Et si quelqu'un a des questions, il pose à l'autre, à son frère, à sa sœur, au pasteur, et puis on essaie d'avancer ensemble. Alors, ou alors dans certaines églises, on arrête carrément les dons spirituels pour ne pas risquer. Et je vais vous dire, c'est parfois dans les églises les plus à la pointe qu'on a complètement coupé la vie de l'esprit, hein, parce que ça peut faire désordre. Alors, dans ces églises les plus hype ou tout ce que vous voulez, pas de dons spirituels, pas vie de l'esprit, comme ça, pas de dérapage. Dernier équilibre, équilibre entre parole et esprit. Nous ne marchons pas dans notre vie chrétienne par des révélations. Les révélations nous encouragent, elles nous exhortent, elles nous consolent, mais nous marchons par la parole. C'est elle qui est la lampe à nos pieds et la lumière sur notre sentier. Mais nous ne voulons pas étouffer la vie de l'esprit, nous priver de toutes les bénédictions divines qu'elle peut nous apporter. Et nous croyons au contraire que la parole et l'esprit travaillent ensemble. La parole fournit la base et le cadre de la manifestation des dons spirituels. Elle établit des principes de bon fonctionnement et d'équilibre pour le plus grand intérêt de tous. Frères et sœurs, peut-être certains, vous avez l'impression que je vise des cas particuliers. Je vous dis, je n'ai vraiment personne en tête ce soir. Je ne prêche donc pas contre quelqu'un ou contre quelques pratiques. Je veux avant tout encourager une vie de l'esprit abondante et édifiante. Pour cela, elle doit s'inscrire dans son référentiel biblique. La Bible n'est pas étouffante, la Bible n'est pas astreignante, la Bible est équilibrée, la Bible est libératoire, la Bible est sécurisante pour tous. C'est ce que nous désirons, le bien de tous et aussi l'épanouissement de tout ce que Dieu nous a donné, notamment dans la vie prophétique. Voilà ces choses que je voulais partager avec vous. Ça peut peut-être susciter des questions. Alors, au lieu de rester dans des incompréhensions, des objections, ou alors peut-être si vous avez des blessures, des frustrations, des réticences, je vous en prie, venez nous voir. On sera vraiment heureux de partager avec vous. Parce que nous voulons vraiment que les choses soient limpides, elles soient claires, elles soient dans la vérité. Amen. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous croyons dans l'efficacité et la beauté de la vie prophétique et vraiment nous aspirons à avancer dans ce domaine. Tu es un Dieu qui a tellement de choses merveilleuses en réserve et que tu veux distribuer à ton peuple. Seigneur, tu as dit que dans les derniers temps, tu répandrais de ton esprit sur toute chair et tu donnerais aux jeunes gens des visions, aux vieillards des songes, aux serviteurs et aux servantes des prophéties. Et nous voulons vivre cela. Nous voulons vraiment le vivre, mon Dieu, parce que c'est vraiment touché à ce qui est divin. Mais nous voulons aussi le vivre de la manière de la parole de Dieu. Avec, Seigneur, ces principes de bon fonctionnement qui sont sécurisants et qui nous permettent de grandir ensemble. Merci, mon Dieu, de faire fructifier la vie de l'Esprit au milieu de nous et qu'elle porte du fruit en abondance. Dans le nom de Jésus. Amen.